Il est 8h en temps universel et à Abidjan, 10h à Paris. Merci d'écouter RFI. Bonjour, bienvenue dans 10 minutes, émission spéciale à l'occasion des 50 ans de la CEDEAO, un anniversaire sur fond de crise. L'organisation ouest-africaine est-elle encore crédible? Mais d'abord, le journal international. Bonjour Jeanne Bartoli.
Et bonjour Juan Gomez, bonjour à tous. Dans ce journal, Volodymyr Zelensky propose une rencontre trilatérale avec Donald Trump et Vladimir Poutine, alors que la Russie est en train de masser, selon l'Ukraine, 50 000 soldats à la frontière de la région ukrainienne de Soumy. On parle aussi dans ce journal de la Chine qui accueille les dirigeants des îles du Pacifique. Reportage également au Maroc où l'on s'inquiète de la loi sur l'interdiction du démarchage téléphonique, une loi adoptée en France. Et puis Roland Garros, parmi les rencontres du jour, la Polonaise Iga Swiatek qui affronte la Britannique Emma Raducanu en quête de résurrection 4 ans après sa victoire à l'US Open. Volodymyr Zelensky annonce qu'il a proposé une rencontre trilatérale avec Donald Trump et Vladimir Poutine pour faire avancer les discussions de paix sur la guerre en Ukraine. Le président ukrainien qui est aujourd'hui à Berlin, il a exhorté Washington à imposer de nouvelles sanctions à la Russie qui a rejeté jusqu'à présent l'idée d'un cessez-le-feu général et inconditionnel de 30 jours avec l'Ukraine. Sur le front de la guerre des drones, cette fois l'Ukraine a tiré cette nuit 300 drones sur le territoire russe selon Moscou après un week-end lors duquel l'Ukraine avait fait l'objet d'un déluge de feu. Plus de 18 personnes ont été tuées dans le pays. Notre correspondante Emmanuelle Chaz s'est rendue dans le centre de Kiev, visée ce week-end par ces frappes russes. Reportage.
Nous sommes à Loukianivska, en plein centre de Kiev. C'est un quartier populaire où l'on retrouve autant de familles que de personnes âgées, d'étudiants. Et un quartier aussi régulièrement visé par les frappes russes. Ce week-end, c'est un bâtiment résidentiel d'une vingtaine d'étages qui a été fortement endommagé. Un drone a explosé juste devant et les appartements des étages inférieurs ont été dévastés. Pourtant, dans le studio de musique des Seven Monkeys au sous-sol, les activités ne se sont pas arrêtées, comme l'explique son propriétaire Anton.
Le matin suivant l'attaque, nous avons recommencé à travailler. En fait, nous n'avons pas arrêté. Nous avons informé tous ceux qui voulaient venir que c'était sûr. C'est comme ça. C'est juste comme ça qu'on vit. Et les gens ont emmené leurs enfants parce que quelqu'un avait un concours de chant le jour suivant. Et évidemment, on ne pouvait pas refuser. Les gens sont venus, ont chanté parce que c'est le genre de thérapie dont les gens ont besoin. Et la musique a toujours été un moment de sublimation pour les gens de nos jours.
Lundi, une vidéo montrant des enfants pendant une leçon de chant au studio d'Anton a fait le tour des réseaux sociaux en Ukraine et a remonté le moral d'une population éprouvée au quotidien. Mais les Ukrainiens comptent bien continuer à vivre. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Et Volodymyr Zelensky a lui affirmé ce matin que la Russie était en train de masser plus de 50 000 soldats près de la région ukrainienne de Soumy, région frontalière de la Russie. Selon le président ukrainien, l'armée russe se préparait à une possible offensive dans la région où Moscou a dit vouloir créer une zone tampon pour prévenir des incursions de Kiev. Emmanuel Macron reçu ce matin par le président indonésien Prabowo Subianto, deuxième étape de la tournée du président français dans le sud-est asiatique, chez l'un des principaux partenaires de la France dans la région. La France et l'Indonésie qui appellent ce matin à des progrès lors de la conférence de l'ONU co-présidée par la France en juin prochain, des progrès qui doivent aller vers la reconnaissance mutuelle entre Israël et la Palestine. À Gaza, à présent, la distribution d'aide alimentaire par une fondation controversée a tourné hier à l'émeute. La distribution d'aide a fait une quarantaine de blessés, c'est ce qu'annoncent ce matin les Nations Unies. Cette distribution avait lieu à Rafah, dans le sud de Gaza. Un autre rendez-vous diplomatique, la Chine accueille jusqu'à demain les représentants de plusieurs États insulaires du Pacifique. Objectif affiché par Pékin, resserrer les liens avec cette région stratégique. Autour de la table, les chefs de la diplomatie de 11 pays, dont Kiribati, les îles Salomon, la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou encore les îles Fidji. Correspondance et explications avec Léa Broderst.
Au programme de ce sommet, trois priorités: renforcer les échanges commerciaux et les investissements, la coopération face face aux défis climatiques et enfin soutenir un développement durable dans ces pays insulaires souvent vulnérables. Autre enjeu fort, la réduction des risques de catastrophes. La Chine a mis en place un centre régional qui organise des formations, des exercices d'urgence et elle fournit du matériel de secours. Des partenariats ont été noués avec des institutions locales comme l'Université des Fidji ou celle des Tonga. Ce sommet est aussi l'occasion de dialogues bilatéraux. Les îles Cook, par exemple, poursuivent avec Pékin la mise en œuvre d'un plan stratégique pour la période 2025-2030. Mais cette offensive diplomatique de la Chine attire l'attention. L'accord signé avec les îles Cook a provoqué des tensions avec la Nouvelle-Zélande qui regrette ne pas avoir été consultée. Un rappel que dans cette région, chaque rapprochement est aussi un message géopolitique. Malgré ces crispations, les pays du Pacifique affirment leur autonomie et cherchent des partenariats alignés sur leurs priorités. Cette réunion pourrait bien marquer les contours de la coopération régionale et peser sur les équilibres géopolitiques à venir. Cléa Broders de Pékin, RFI.
Et à l'écoute d'RFI, 10h passées de 5 minutes, c'était il y a 50 ans, jour pour jour, la création de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Un demi-siècle plus tard, les 12 pays membres vont se retrouver là où tout a commencé aujourd'hui, à l'Institut nigérian des affaires internationales, à Lagos. C'est une loi adoptée en France le 21 mai dernier et qui inquiète le Maroc, la loi sur l'interdiction du démarchage téléphonique non sollicité. Elle doit prendre effet en août 2026. Elle soulève donc beaucoup d'inquiétudes au Maroc, où près de 800 entreprises travaillent dans le secteur et emploient environ 100 000 personnes au sein notamment de petites structures très souvent spécialisées dans la téléprospection. Reportage dans un centre d'appel à Casablanca, François Humfer-Kataji.
Monsieur Karim, de la part du Compar, je vous ai contacté aujourd'hui pour vous proposer un contrat de fourniture d'électricité.
Assis les uns à côté des autres sur de petits bureaux, les opérateurs enchaînent les appels, principalement vers la France. Ici, 100% des activités concernent le démarchage téléphonique, selon la responsable de production.
On est concerné en première position, parce que tout simplement on est sur la prospection sauvage.
Pouvez-vous me confirmer les coordonnées communiquées préalablement pour le nom?
On appelle les clients pour leur proposer de changer leur contrat de fourniture d'électricité et de gaz. On est un comparateur d'énergie.
Avec la nouvelle loi française, elle craint de voir disparaître les 160 emplois de son entreprise.
Ça aura vraiment un vrai impact sur la prod et un impact sur tous les niveaux. On a vraiment à y perdre si vraiment la loi est appliquée.
Parmi les solutions envisagées, créer des bases de données géantes et obtenir des clients le droit d'être rappelés à travers des clics sur Internet. Pour Ayoub Saoud, secrétaire de la Fédération nationale des centres d'appel pour le syndicat UMT, des milliers d'emplois sont en jeu.
Ces centres d'appel qui ne sont pas diversifiés ou qui n'ont comme activité que ce périmètre-là, se verront obligés de fermer et puis donc des licenciements surviendront.
Les dirigeants du secteur promettent que des solutions peuvent être trouvées pour éviter les sanctions. La loi française prend effet en août 2026. François Humfer-Kataji, Casablanca, RFI.
En France, le verdict attendu aujourd'hui au procès de l'ex-chirurgien et pédocriminel Joël Lescouarnec, qui encourt la peine maximale de 20 ans de prison pour viol et agression sexuelle. Aujourd'hui âgé de 74 ans, qualifié de diable par l'avocat général, il est accusé d'avoir commis des viols et des agressions sexuelles sur près de 300 personnes, dont une large majorité de patients mineurs entre 1989 et 2014. Enfin, on termine ce journal avec du tennis. C'est le début aujourd'hui du deuxième tour de Roland-Garros. Chez les dames, l'une des affiches opposera la Polonaise Iga Swiatek, triple tenante du titre, à Emma Raducanu, la Britannique, lauréate surprise de l'US Open en 2021, qui depuis peine à retrouver les sommets. Eric Mamrut.
C'est l'une des sportives les mieux payées au monde. Égérie de Dior, Porsche et Tiffany, Emma Raducanu n'est pourtant que la modeste 40e mondiale. De nombreuses blessures l'ont en effet empêchée de surfer sur la vague de son fabuleux US Open 2021, remporté à 18 ans après être sortie des qualifications. Depuis, la Britannique brille surtout par son inconstance, mais pour l'ancienne joueuse Camille Pin, le bout du tunnel n'est pas loin.
Pour moi, elle est tout à fait capable de retrouver un niveau de jeu, puisqu'elle a remporté ce tournoi peut-être beaucoup trop tôt et qu'elle avait besoin d'années de circuit pour se former, pour comprendre. C'est une joueuse qui a été très vite adulée alors qu'elle commençait à peine, mais elle avait besoin de mûrir tout simplement.
Aura-t-elle suffisamment mûri pour battre aujourd'hui pour la première fois la numéro 5 mondiale Iga Swiatek après 5 défaites consécutives contre la Polonaise? Emma Raducanu, en tout cas, est prête à relever le défi.
Je suis contente de l'affronter à nouveau. Ces derniers mois, mon niveau de jeu a bien progressé, mon état d'esprit également. C'est génial d'avoir une nouvelle opportunité de me mesurer à une top joueuse. Je me réjouis de ce nouveau challenge.
Un challenge idéal face à la triple tenante du trophée pour retrouver le devant de la scène et la route vers les sommets. Éric Mamrut, Roland Garros, CRFI.
10h10 à Paris, tout de suite Juan Gomez pour rappel sur l'actualité.